Pierre-Yves, toi, là, le modèle coopératif médiatique, tu crois pas tant que ça à ça, hein?
En fait, le modèle coopératif en général, on a soulevé ça comme proposition de sauver les médias en mettant en place un modèle coopératif. Je te donne des exemples qui fonctionnent au Québec. La Barberie, l'espèce de microbrasserie à Québec, fonctionne très bien sous ce modèle-là. Desjardins est une coopérative. Peu importe ce que les gens en pensent au niveau de sa réalité économique, ça demeure une coopérative. Mais souvent, on soulève ça. Hein? Par exemple, Guillaume Wagner, avec ses amis, avait dit « on va partir une coopérative pour se produire au lieu de donner notre argent à un producteur ». Mais quand tu arrives dans le milieu des médias, une coopérative, c'est des membres qui se parlent. Tu as une adhésion volontaire de tous, tu as un pouvoir démocratique à chacun. Là, c'est dans un milieu de médiatique qui fonctionne pas bien. Faut mettre de l'argent personnel pour acheter une part et acheter... aider à l'entreprise, parce qu'au début, la coopérative qui a pas une scène, là, qui va la financer? Ça va être les journalistes ou je sais pas, Investissement Québec ou quelqu'un qui va mettre l'argent avec, mais faut comprendre que ça demande une démocratie. Donc, quand il va y avoir des décisions à prendre, quand il y a un actionnaire ou il y a plusieurs actionnaires qui sont décisifs, eux peuvent décider où va la barque. Mais quand t'as une démocratie, puis les journalistes disent, mettons, hey, moi, je travaillerai pas à telle condition, c'est pas vrai que je vais prendre les photos. Dans le fond, t'es boss et employé, c'est pas évident, ça prend un esprit de corps très grand. Et il y en a toujours qui finissent toujours par travailler plus fort que d'autres. Parce que contrairement à évidemment un modèle un peu plus propriétaire-employé, il y a moins de pouvoir, je te dirais, décisionnel qui est basé sur les actionnaires et les employés. Là, c'est les membres qui élisent, qui nomment des gestionnaires et qui, eux, gèrent. Mais à la fin, c'est les membres qui votent.
Mais je veux dire, regarde, t'as tout à fait raison, là, t'as raison d'avoir des doutes là-dessus. Mais je veux dire, moi, comme journaliste, là, ce qui est un angle mort pour moi dans ce modèle-là, OK? Parfait, tant mieux si ça permet à des médias de continuer à vivre. Quand t'es rendu à avoir un modèle de coopérative médiatique, OK? Pour moi, là, c'est que t'es rendu un peu pauvre, OK?
Oui, puis, très pauvre.
Comme média, là, si tu veux vraiment déranger, faire des enquêtes qui dérangent, qui décoiffent, ça te prend du cash. Puis c'est bien beau le modèle médiatique, c'est peut-être, coopératif, c'est peut-être une belle organisation du travail. Mais moi, la raison pour laquelle je veux travailler pour des médias qui ont de l'argent, là, c'est quand on arrive pour te poursuivre, c'est peut-être plus facile de poursuivre une coopérative parce que tu sais qu'ils vont plier les genoux assez rapidement.
Mais vous allez à l'envers. Tu peux aussi avoir une coopérative qui est exactement comme une entreprise qui a de l'argent. Mettons que le gouvernement finançait la coopérative. Tu sais, comme elle finance des OBNL, et qu'après ça, on disait à la coopérative, gérez ça entre vous autres. La question, c'est comment ça va être géré, comment la coopérative peut mieux réussir qu'une entreprise qui n'était pas une coopérative. Tu sais, la forme légale de l'entreprise ne changera absolument rien à la réalité économique. Ça prend quelqu'un pour mettre du cash. Si c'est pas les employés, c'est les commanditaires, c'est le gouvernement, c'est Investissement Québec, mais est-ce que ça va devenir une pompe à cash de la même façon que les autres médias, tu sais? On n'a pas d'argent. C'est vraiment ça qui est spectaculaire. C'est que peu importe la forme légale que tu mets, tu vas avoir un manque à gagner dans les revenus.
Ouais. Hey, bon, écoute, on verra ce qui va arriver. On souhaite pas de mal à nos collègues du Soleil, des autres journaux. On a vu qu'aujourd'hui, le groupe Capital Media a placé ses actifs là sous la protection de la loi de la faillite. Moi, je me croise les doigts. J'espère qu'il va y avoir un redressement et que ces gens-là vont pouvoir continuer à informer. Bon, bref, écoute, les taux d'intérêt négatifs. Je vois, au Danemark, il y a ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est-tu la banque qui te paye pour avoir une hypothèque?
Ouais, mais tu sais, bon, là, faut comprendre une chose. Stéphanie Grandmont a écrit un article là-dessus ce matin. Faut comprendre le contexte. Tu sais, mettons, Patrick, t'as de l'argent. T'acceptes de payer des frais à la banque parce que tu veux pas te payer, toi, un garde du corps, un coffre-fort, des murs blindés chez vous pour protéger ton cash. On est d'accord? Donc, tu dis, je suis prêt à payer certains frais pour ma banque. Okay. Mais dans un contexte où tu fais pas confiance à ton pays ou à l'union dans laquelle tu vis, tu dis, moi, je veux placer mon argent à long terme dans des obligations d'un pays qui est solide.
Oui.
Alors, le gouvernement dit pas de problème, mais le pays qui est solide, il y a tellement de monde qui veulent avoir des placements obligataires là-dedans que tout le monde se bat pour les avoir et sont prêts à ne pas être rémunérés. Et donc, à placer de l'argent et que finalement, il n'y ait pas de rendement, voire à payer pour placer leur argent à long terme pour le protéger de la menace, tu comprends?
Oui.
Alors, quand on arrive aux prêts hypothécaires dans ce temps-là et que des gens fixent des prêts hypothécaires, comme au Danemark, à plus long terme, ben, à long terme, les prêts hypothécaires sont basés sur les obligations. Comme les obligations sont à valeur très faible ou négative, les taux hypothécaires deviennent très faibles et donc la banque finit implicitement par te payer pour emprunter. Ça crée une pression énorme sur la valeur des maisons parce que tout le monde peut emprunter, tu comprends? Donc, ça monte la valeur, tu sais. Le coût de l'emprunt est faible. Mais au Canada, on n'a pas des taux négatifs. Mais tu sais, quand on est en train, dans le moment, pouvoir négocier un 5 ans en ferme, fixe 5 ans, 2,59%, c'est parce que les taux obligataires sont bas. Parce que la courbe de taux d'intérêt est basée sur les taux obligataires. Donc, bien qu'ils ne soient pas négatifs ici, il y en a même pour moi qu'il faut comprendre que c'est tout le raisonnement est le même, mais nous, on reste dans le positif.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un pays arrive à des taux d'intérêt négatifs?
Mais c'est parce que justement, on veut tellement stimuler l'économie qu'au niveau court terme, évidemment, on arrive à dire on va baisser les taux tellement faibles qu'on n'aurait quasiment plus de coûts de financement. Et quand t'arrives négatif, comme je te dis, c'est que les gens, il y a tellement de monde qui se battent pour les obligations.
Oui.
Tu sais, tout le monde veut acheter des obligations de ton pays. Là. On se bat, là, on veut les avoir pour placer notre argent. Là, tu mets à 1% des acheteurs, à 0,5% des acheteurs, à 0,25% des acheteurs, à 0, il y a des acheteurs, puis à moins 0,5, il y a des acheteurs. Alors là, les gens veulent tellement placer leur argent à quelque part de sûr qu'ils sont prêts à rémunérer quelqu'un pour garder leur argent.
Mais comme disait Stéphanie Gramont dans la presse ce matin, en conclusion, là, message codé, ça veut dire les clients de cette banque-là, là, venez pas mettre votre argent chez nous, dépensez-le.
C'est ça, dans le fond, c'est ça qu'ils disent, mais en même temps, ça crée une pression ailleurs, ça veut dire que ça augmente le coût de la valeur des maisons. T'sais. Donc, on n'est pas en train de gagner, là, pis ça veut dire qu'on est en train d'artificiellement tenter d'aider l'économie, mais à long terme, c'est pas une solution viable.
Bon, parfait, Pierre-Yves, merci beaucoup, on t'écoute demain matin chez Paul Arcand.